Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique. Le monde arabe entre rupture et renaissance, ce thème a récemment fait l'objet d'un colloque à Paris organisé par le département de recherche Société, Liberté, Paix du Collège des Bernardins et l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient. 5 années après le déclenchement des révolutions, alors que de profonds bouleversements traversent le Moyen-Orient, regard sur la situation actuelle dans le monde arabe, ses perspectives, les craintes devant la déliquescence prolongée de certains États. Allons-nous vers une recomposition du Moyen-Orient qui verra les États actuels être remplacés par des entités ethnico-culturelles? Les concepts de citoyenneté et de démocratie peuvent-ils progresser dans la région? Pour toutes ces questions, nos invités, Virginie Colombier, chercheur à l'Institut universitaire européen de Florence, bonjour.
Bonjour.
Pierre-Jean Luizard, directeur de recherche au CNRS, bonjour.
Bonjour.
Et Jean-Paul Chagnelot, professeur des universités, directeur de l'IREMO, co-auteur avec Pierre Blanc de l'Atlas du Moyen-Orient qui vient de paraître aux éditions Autrement. Bonjour.
Bonjour.
Que reste-t-il des printemps? Cette question trouve tout son sens en ce début d'année 2016, 5 ans après les mouvements qui ont ébranlé le monde arabe en 2011 et ont échoué à transformer radicalement le Moyen-Orient et fait le lit du djihadisme. Nous allons évidemment en parler. Le projet révolutionnaire est-il pour autant sans avenir? Le mouvement est-il terminé? Le seul succès des mouvements d'il y a 5 ans, c'est la Tunisie. Ailleurs, c'est le retour à la case départ, comme en Égypte, où on a assisté à une prodigieuse détermination des militaires à ne céder aucune miette de leurs privilèges. Également à Bahreïn, deux pays où les régimes autoritaires ont survécu. Ou le chaos, avec des États qui se sont effondrés, Irak, Syrie, Yémen, Libye. On est loin aujourd'hui de ce qui avait été imaginé il y a 5 ans. Jean-Paul Chagnelot, vous parlez d'un retour de l'histoire après dépeçage de l'Empire ottoman. Finalement, de quoi ces printemps ont-ils été le révélateur?
Je crois qu'ils sont le révélateur des multiples contradictions au Moyen-Orient, des contradictions qui sont loin d'être réglées. Si on reprend l'histoire, je crois qu'on a vraiment créé dans les années 20... des États qui au départ étaient sans nation, c'était des sociétés très segmentées, qui ont vécu pendant des siècles dans un autre système politique radicalement différent, qui n'était pas un État mais un empire. Et par ailleurs, il y avait des nations potentielles en tout cas, auxquelles on n'a pas donné de toit politique, on n'a pas donné d'État. Donc je pense aux Kurdes, je pense aux Palestiniens, je pense aux Arméniens d'une certaine manière aussi, même s'ils ont eu...
On en parle plutôt moins, même si...
Même s'ils ont eu finalement une république, mais ils ont été écrasés entre les Soviétiques et les Turcs dans les années 20. C'est un tissu de contradictions profondes avec des sociétés segmentées et où finalement elles n'ont jamais pu se retrouver face à elles-mêmes de manière apaisée, quoi. Et ce qui se passe aujourd'hui, je crois que c'est pas simplement une crise, c'est vraiment un moment historique qui malheureusement est à travers des tragédies et qui va durer encore longtemps. Et je pense qu'après plus rien ne sera comme avant, évidemment. Mais ce qui va en devenir, j'en sais rien. On peut espérer peut-être que un certain nombre de questions justement non résolues commencent à l'être, mais on n'en voit guère le chemin. Parce qu'une fois qu'on a dit ces généralités, dans chaque zone, dans chaque pays, il y a des spécificités et je crois qu'il faut les prendre les unes par rapport aux autres. Si on prend la question syrienne, je crois que nous avions affaire et nous avons toujours affaire à un régime que je qualifierais de totalitaire au sens de Hannah Arendt. Dans le cas égyptien, nous sommes dans un autre type de régime politique avec l'armée qui tient le pays depuis fort longtemps et donc nous avons des logiques différentes. Donc il y a à la fois des éléments très communs à l'ensemble de cette région et puis il y a des spécificités dont il faut tenir compte. Et puis je crois que quand on parle de l'Égypte, on est en face cette fois-ci non pas d'un État sans nation, mais au contraire d'un État-nation. Donc il faut faire attention aussi de pas trop généraliser et de pas prendre la question trop globalement. À un moment donné, il faut essayer d'être beaucoup plus spécifique.
Pierre-Jean Luizard.
Oui, je crois qu'il y a effectivement une très grande diversité de situations et quand on parle d'un retour de l'histoire, il faut évidemment faire la différence entre les différents cas, l'Irak, la Syrie, le Liban, qui sont des créations mandataires et qui sont des créations en violation des promesses. On a parlé des Arméniens, des Kurdes et de quelques autres, mais les Arabes aussi ont été floués dans la mesure où on leur avait promis non seulement un royaume unifié sur le Bilad al-Sham, c'est-à-dire la Grande Syrie. Et au lieu de ça, ils ont eu des entités, des mini-États arabes croupions qui avaient un fort tropisme envers les minorités. Ce qui explique pourquoi ces États n'ont jamais réussi à ouvrir un espace citoyen pour l'ensemble de la population et pourquoi les revendications à travers les sociétés civiles qui se sont manifestées avec les printemps arabes n'ont pas pu être reçues comme qu'elles auraient dû l'être par des États qui n'avaient pas la légitimité nécessaire pour cela.
Virginie Colombier.
Je suis d'accord, je pense simplement qu'il y a effectivement des spécificités locales très fortes, mais également, on le voit, et ça s'est clarifié de plus en plus au cours des 5 dernières années, des thématiques ou des points extrêmement importants dans les crises qui se nouent dans la région, dans différents pays de la région, et qui ont des spécificités, et qui mettent un certain nombre de pays de la région, si on pense par exemple à la Syrie, à l'Irak, ou à la Libye et au Yémen aujourd'hui, des thématiques communes et des points de crise extrêmement importants qu'il est possible de mettre en parallèle et d'analyser en parallèle dans chacune de ces zones. Donc à la fois des spécificités locales très fortes, mais également des problèmes communs et des manières éventuellement de les affronter qui peuvent être regardées en parallèle.
Jean-Paul Chagnolot.
Oui, juste par rapport à ce qui vient d'être dit, je crois que si on prend les années 20, que ce soit au Maghreb, au Maroc notamment, ou au Moyen-Orient, il y a des résistances nationales, proto-nationales, et toutes sont écrasées par l'armée. Abdelkrim, dans les années 20 au Maroc, c'est aussi, au même moment, une révolte dite druze, mais qui est en fait une révolte plus large que ça, en Syrie. D'ailleurs, une partie de la bataille des Syriens sera perdue parce que Abdelkrim aura perdu, et donc une partie des forces françaises vont aller en Syrie. Il y a une révolte en Irak, des chiites, en Palestine, à partir de 1936, il y a la Grande Grève, et puis ensuite, c'est une guerre terrible. Donc en fait, la bataille de Messaloun aussi en 1920, qui fait que Faisal, Pierre-Jean Luisard parlait des Arabes, eh bien ils ont été battus à la bataille de Messaloun par le général Gouraud en 1920. Donc on oublie qu'il y a eu ces mouvements de revendication qui se sont traduits par des batailles perdues, et je pense que ça a laissé beaucoup de traces un peu partout. En Syrie par exemple, il faut pas oublier que Damas a même été bombardé en 1924-25. Donc on est vraiment dans une période où les revendications nationales ont été écrasées, quoi. Et évidemment, ça reste dans la mémoire collective.
Donc finalement, ce que j'entends, et vous êtes tous les trois d'accord sur cela, c'est que voilà, le terreau était là pour qu'on imagine à un moment donné que les choses allaient exploser. Ça a pris de surprise en janvier 2011, mais si ça n'avait pas été janvier 2011, ça aurait pu être février 2013. Enfin, je veux dire, voilà, le terreau était en tout cas là pour dire que les choses n'avaient pas été réglées. Et ça pose la question aussi de savoir si le mouvement qui a prévalu, qui est aujourd'hui à nouveau verrouillé, pourra ressurgir à un autre moment, Pierre-Jean Luisard.
Alors, effectivement, cela a mis du temps parce que les États qui ont été fondés au Moyen-Orient en 1920 et légitimés par la nouvelle communauté internationale à travers la Société des Nations, ces États se sont imposés contre la volonté majoritaire des populations, mais ensuite, il y a eu plusieurs décennies que je qualifierais d'illusions nationales, c'est-à-dire que toutes les élites en place ont fait leur cible privilégiée, les États qui avaient été combattus précédemment, abandonnant donc, pour une simple rhétorique politique, toute velléité panarabe. Et aujourd'hui, on voit que, de façon paradoxale, c'est l'État islamique qui reprend cet héritage utopique, puisqu'il n'a jamais existé, de parler au nom d'une région sans frontières, puisque l'État islamique, par définition, se veut un État, mais ne veut pas de frontières. Et donc, on voit très bien à travers ce quasi-siècle d'illusions nationales comment les différents partis politiques, parti communiste, parti nationaliste arabe et autres tendances politiques, ont tenté de résoudre les questions de légitimité de l'État, ajoutant chacun une foi dans la possibilité de le faire dans le cadre des institutions en place. Ce qu'a révélé le printemps arabe, c'est que justement ça n'était pas possible et que au-delà des régimes de Bachar el-Assad et des autres régimes autoritaires, il y avait bien la question des États qui était posée dans la mesure où ces États n'ont pas pu recevoir les revendications légitimes des sociétés civiles, et c'est probablement la raison pour laquelle on a vu les printemps arabes déboucher sur un délitement des États, le premier d'entre eux étant l'État irakien et qui a ensuite entraîné l'État syrien et l'État libanais qui est aussi le premier concerné, puisqu'on n'imagine pas que le Liban puisse rester indemne dans une redéfinition du système frontalier étatique.
On en reparlera du Liban. Virginie ouais, Colombier.
Justement, au-delà de la question des nationalismes écrasés ou de la redéfinition des frontières ou de la question de la légitimité des États tels qu'ils ont été dessinés dans les années 20, je pense qu'il y a une question centrale qui a joué un rôle central dans les crises depuis 2011, c'est la question des revendications sociales, économiques et plus largement de justice. Et la question des systèmes de pouvoir, comment les pouvoirs ont été organisés dans la région, pas seulement des États et des frontières, mais de comment les pouvoirs se sont structurés et de comment les rapports entre les États et les gouvernants et les sociétés se sont structurés ont été fondamentaux. Et c'est ça qui est entré en crise, au-delà même de la question des frontières. C'est pour ça que quand on parle même de l'exemple tunisien comme un modèle, je pense qu'il faut relativiser. Certes, on a un relatif succès parce que le pays reste relativement stable, mais on a eu les cartes ont été rebattues sur le plan strictement politique, mais les systèmes de pouvoir et en particulier les questions économiques de justice sociale qui étaient au cœur de la révolution en 2011 n'ont pas été fondamentalement remis en cause. Et c'est aujourd'hui pour cette raison d'ailleurs qu'on voit que la crise et que les tensions resurgissent de manière très forte en Tunisie. Et c'est quelque chose qu'on voit dans toute la région. Donc au-delà du politique des frontières, il y a des questions beaucoup plus fondamentales qui restent et qui n'ont pas été abordées.
Jean-Paul Sagnolo.
Oui, je crois qu'il y a un autre facteur, on dit. Il faut parler, il est considérable. C'est, pour prendre une figure sémantique un peu facile, les empires extérieurs. Alors, les empires ont été vraiment, dans les années 20, il s'agissait de l'Empire britannique, de l'Empire français, c'est-à-dire les puissances coloniales qui ont joué un rôle majeur dans la création des États dans les années 20. Mais ensuite, ça a continué. C'est l'Empire, entre guillemets, cette fois-ci américain. Et maintenant, là encore, avec des guillemets, c'est l'Empire russe. Il est bien évident que l'agression américaine totalement contraire au droit international de mars 2003 contre l'Irak, a joué un rôle majeur dans cette déstabilisation. Et aujourd'hui, si on prend l'actualité, c'est-à-dire les négociations à Genève qui ont commencé, qui ont avorté, qui vont peut-être être reprises, j'en sais rien, il est clair que le rôle que joue, entre guillemets, l'Empire russe est tout à fait considérable. Il est à la fois présent sur le plan militaire et sur le terrain, et évidemment, par conséquent, sur le plan diplomatique. Et donc, les ingérences extérieures au Moyen-Orient font aussi partie des éléments du drame que les peuples du Moyen-Orient vivent depuis longtemps.
Virginie Colombi.
Oui, fondamentalement, il y a la question tout simplement de l'état de droit, de la manière dont les peuples de la région se sont soulevés pour réclamer leurs droits, que l'État respecte leurs droits en tant que citoyen et les droits de tout le monde de la même manière, ce qui a été fondamental et qui aujourd'hui apparaît comme le principal échec, je pense, des crises depuis 2011. Et c'est quelque chose aussi qu'il est intéressant de regarder quand on voit ce qui se passe en Irak ou en Syrie avec la prise de contrôle de l'État islamique dans certaines zones, ou également en Libye. Et on avait des discussions intéressantes lors de la conférence où certains observateurs, en particulier de Syrie-Irak, disaient une des choses qui finalement fait que l'État islamique est relativement toléré dans certaines zones, c'est qu'il impose une certaine forme d'état de droit dont les populations locales bénéficient, entre guillemets. Et c'est quelque chose qui paraît très surprenant, étant donné la manière dont on parle de l'État islamique ou de la manière dont il gère les territoires et les populations qu'il contrôle, mais qui mérite d'être un peu analysé et réfléchi, je pense.
C'est cela, ça a été évoqué, c'est la lutte contre la corruption, en tout cas une société plus organisée et plus juste. On détaillera un tout petit peu plus tard la question des pays, on parlera de l'Irak, de la Libye. Je voudrais juste, par rapport à ce que vous évoquiez, le processus révolutionnaire avec les problèmes qui n'ont pas été solutionnés. Les problèmes, on les connaît et on en parle depuis 2011. Taux de chômage élevé, une économie atone, et je pense que la baisse des prix du pétrole ne va pas arranger la situation de certains pays. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si le processus révolutionnaire a disparu. Est-ce qu'il peut ressurgir sous quelle forme?
Alors, je pense qu'il y a eu en 2011 quelque chose d'irréversible qui s'est manifesté, qui était en gestation, puisque en fait, on peut dire que les printemps arabes ont débuté peut-être en Algérie, par exemple, dans les années 80 et 90, par des mouvements sociaux répétés, et que 2011 n'a été que l'aboutissement d'un vaste processus d'émergence des sociétés civiles. Mais pour résumer, je dirais qu'il y a autant de raisons d'espérer que de raisons de désespérer. Les raisons d'espérer, c'est le caractère irréversible de l'émergence des sociétés civiles qui fait que les régimes autoritaires ne pourront plus gérer les sociétés comme ils le faisaient précédemment. Le cas de l'Égypte est un peu à part parce que le retour à un régime autoritaire dominé par l'armée est intimement lié à des questions identitaires propres à l'Égypte et à l'État, à la défense de l'État-nation. l'Occident égyptien qui est une cause nationale et où les frères musulmans se sont fourvoyés. Mais il y a donc aujourd'hui un acteur politique majeur qui est représenté par ces sociétés civiles. Et alors les sociétés civiles doivent avoir une expression politique ou un débouché politique. Et c'est là le grand problème, c'est que les États aujourd'hui ne sont pas à même d'offrir une réponse ou même d'écouter les doléances de leur société. Et je relis cette incapacité probablement à une forme d'illégitimité qui les frappe depuis leur origine. C'est pour ça que quand même je fais une différence entre certains États qui correspondent à des identités anciennes, des États qui ont une profondeur historique comme l'État égyptien, le Maroc et quand même aussi la Tunisie, et d'autres pays comme le Liban, la Syrie, l'Irak par exemple, qui posent la question: existe-t-il une nation libanaise, une nation syrienne, une nation irakienne, une nation libyenne? Voilà, donc tout ceci est un immense chantier qui est posé devant les acteurs internationaux et qui doit être pensé pays par pays, mais aussi dans un contexte global où on voit des processus qui sont similaires ici et là.
Alors la nécessité d'engager des réformes, elle est évidente. Je retiens de ce que vient de dire Pierre-Jean Buisard, c'est quand même l'illégitimité des gouvernements. Et j'ai cette question, est-ce que finalement, là aussi, en contrepartie ou de l'autre côté, les mouvements étaient mal préparés? Virginie
Colombier. Je ne suis pas convaincue qu'il y ait eu un grand degré de préparation des mouvements en question. Je pense qu'une des choses qui a été assez éclatante, justement, c'est la spontanéité de ces mouvements. On l'a vu en Tunisie, ouais. On l'a vu en Égypte, je pense qu'en Syrie et même en Libye, d'une certaine manière, ça a été la même chose. Le degré de préparation était très faible. Ce qui a sans doute posé problème, c'est la capacité ensuite de ces mouvements spontanés à s'organiser et à se structurer et à utiliser des canaux qui permettaient d'inscrire ces mouvements-là dans le registre politique. C'est ce qui a fait davantage défaut. On le voit dans des pays même comme la Tunisie, mais si la Tunisie a relativement mieux réussi, c'est parce qu'elle disposait justement de ces canaux un peu mieux structurés et un peu plus légitimes. Dans un cas extrême inverse comme celui de la Libye, on voit justement qu'un des problèmes majeurs, ça a été l'absence de canaux et d'institutions suffisamment solides et suffisamment ancrées, dont les gens avaient la maîtrise et qui permettaient d'organiser et de structurer ces mouvements-là.
Jean-Paul Jagnolo.
Enfin, je suis assez d'accord. Je crois que quand on parle de société civile, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que il y a des sociétés civiles très 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 segmentées, d'autres beaucoup plus unifiées. Donc c'est le rapport entre la société civile et puis la question nationale. Si on prend l'Irak, la société civile, c'est pas la question nationale évidemment. Et je crois que si on compare par exemple la Tunisie et la Syrie, la grande différence, par exemple en Tunisie, vous aviez une vraie société civile organisée, même si elle était soumise à un régime autoritaire. Il y avait des syndicats, il y avait le VTT par exemple a joué un rôle considérable. D'ailleurs, une partie du processus a été sauvée par le GTT et puis par les patrons. Enfin, c'était alors qu'en Syrie, parce que je continue à penser que c'était un régime totalitaire, la société était écrasée et par conséquent, il n'était pas question d'envisager la moindre opposition et a fortiori la moindre préparation face à cette révolte. D'ailleurs, au début, on pensait qu'il n'y en aurait pas, justement, parce que c'était écrasé par la peur. Et une des grandes, on l'a dit tout de suite dans les premières semaines, une des grandes nouveautés, innovations, c'est justement que la peur avait été dépassée, ce qui a permis ces mouvements. Mais ils n'étaient absolument pas en capacité de s'organiser, de se préparer. Et c'est une de ses grandes faiblesses. Mais c'est inhérent à la nature même du système qui a prévalu et qui continue à prévaloir depuis des décennies. C'est quand même un régime qui écrase sa population sous les bombes aujourd'hui. Avant, il l'écrasait par la prison, la torture et la répression.
Pierre-Jean Luisa.
Oui, pour poursuivre ce que Jean-Paul vient de dire, la différence entre la Tunisie, par exemple, et l'Irak et la Syrie d'un autre côté, c'est qu'en Tunisie, malgré tout, il y avait, on l'a dit, des institutions et un État capable quand même d'écouter et de recevoir des revendications, alors que l'incapacité des États irakiens et syriens a ouvert la voie à une dégénérescence confessionnelle. C'est aujourd'hui le fait majeur d'un certain nombre de pays où les États sont en pleine déliquescence et dans cette déliquescence, ils ont entraîné une fragmentation de la société sur des bases confessionnelles qui pose énormément de problèmes puisque aujourd'hui, on a par exemple en Irak très probablement une impossibilité de faire coexister chiites et sunnites dans une même entité puisque les gens ont peur les uns des autres. Et c'est probablement l'une des grandes victoires de l'État islamique d'avoir réussi à convaincre les sunnites et les chiites qu'ils ne pouvaient plus vivre ensemble.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Virginie Colombier, Pierre-Jean Luisard et Jean-Paul Chagnolot dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, que reste-t-il des printemps, 5 ans après les mouvements qui ont ébranlé le monde arabe en 2011? Nous retrouvons nos invités, Virginie Colombier, chercheur à l'Institut universitaire européen de Florence, Pierre-Jean Luisard, directeur de recherche au CNRS, et Jean-Paul Chagnolot, professeur des universités, directeur de l'IREMO et co-auteur avec Pierre Blanc de l'Atlas du Moyen-Orient aux éditions Autrement. Comment expliquer que depuis l'épisode du printemps arabe, le conflit entre sunnites et chiites est redoublé de vigueur? Nous en parlions à la fin de la première partie de l'émission. C'est peut-être intéressant de développer un peu cet aspect, Pierre-Jean Luisard.
Alors, il y a eu une émergence des sociétés civiles dans les pays que nous avons cités, mais ces sociétés civiles se sont heurtées à des États qui ne recevaient pas leurs revendications. Mmh. Et parmi les sociétés civiles, il y avait une forte composante confessionnelle basée sur un facteur commun à toutes les communautés chiites du monde arabe, à l'exception de la communauté chiite du Yémen. L'ensemble des communautés chiites du haut décimène du monde arabe avait pour point commun d'être des communautés dominées socialement et politiquement. C'était le cas en Irak, où elles ont été exclues du pouvoir depuis 1920, de Bahreïn, de l'Arabie Saoudite, et pendant très longtemps, les Alaouites de Syrie ont été une communauté marginalisée. Donc, dans la mesure où ces États ne jouissaient pas d'une légitimité aux yeux de l'ensemble de la population, il y a eu des stratégies communautaires. Et l'émancipation des communautés chiites qui s'est mise en marche avec la révolution islamique en Iran de 78-79 a abouti à une communautarisation et a été considérée par des pouvoirs sunnites souvent autoritaires, hein, comme c'était le cas en Irak et à Bahreïn, comme un danger non seulement pour les pouvoirs autoritaires, mais aussi pour les sociétés civiles sunnites qui ont réagi d'un point de vue confessionnel. Et c'est probablement là le drame, hein, le fait qu'il n'y ait pas d'institution capable d'ouvrir un espace citoyen pour l'ensemble des gens, qui fait que les gens se replient sur des identités communautaires et au-delà sur des identités locales. Je rappelle cette expression très juste de Michel Seurat qui a dit que l'État au Moyen-Orient était une asabiya qui a réussi. Une asabiya en arabe désigne des solidarités familiales, tribales, de clans, et c'est bien le cas face à des États considérés comme illégitimes et prédateurs contre lesquels il faut se protéger. On se replie sur des identités primaires.
Virginie Colombier.
Oui, cette question de la mise en place de stratégies communautaires est, je pense, très importante, mais elle va au-delà, en fait, de la division ou de la polarisation entre sunnites et chiites. Et par exemple, dans le cas libyen, c'est pas vraiment, on parle pas vraiment après 2011 d'un État qui serait un État qui écrase. C'est plus un État qui est à reconstruire, dont on sait qu'il a des ressources et qu'il a des choses à donner, et une absence totale de confiance entre communautés qui fait que progressivement vont se coaliser, en fait, différentes forces, souvent sur des bases soit locales, soit régionales, soit tribales. Et ces différents groupes-là, avec une assise très locale, vont avoir des stratégies pour essayer de conquérir l'État ou une partie de l'État et de prendre le plus possible de ces nouvelles structures de pouvoir qui sont en train d'être recomposées. Et donc, de la même manière qu'on le voit aujourd'hui en Irak ou en Syrie, sur des bases plutôt confessionnelles, on a exactement la même dynamique ou les mêmes dynamiques de fragmentation de plus en plus grande entre les communautés et même de plus en plus au sein des communautés. Et pour essayer justement de s'approprier ou de s'accaparer des parcelles de pouvoir, des parcelles de l'État ou des parcelles des nouvelles institutions. Et c'est quelque chose qui est très commun, en fait, dans tous les pays de la zone.
Jean-Paul Chagnolot.
Oui, je crois que c'est l'État, comme l'a très bien dit Pierre-Jean Luisard, c'est l'État, la Sabiha qui a réussi, ça résume tout. C'est-à-dire que c'est l'État d'une caste ou d'un clan ou du segment d'une communauté. Donc évidemment, ça fait que tous ceux qui n'appartiennent pas à cette caste sont complètement rejetés. Et je crois qu'en plus, quand des moments de violence surgissent, il y a des réactions au fond presque élémentaires et assez fondamentales de repli identitaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne sait plus où aller, on revient vers son groupe. Son groupe d'appartenance et ça renforce encore ces allégeances et ces stratégies communautaires. Ça durcit les choses. On a vu ça pendant la guerre du Liban où finalement, selon que vous étiez chrétien alors que vous vouliez sortir de votre communauté chrétienne pour avoir une vision plus globale, eh bien les autres vous rappelaient avec une formule très simple en désignant comme ça vous et vous remettaient dans l'autre camp. Et si on sort de son propre camp, on devient un traître. Enfin, il y a des mécanismes ensuite qui sont très compliqués et qui fait que ça durcit encore ces fractures et ces replis identitaires.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
J'aimerais qu'on parle quelques instants du Liban. Vous êtes inquiets les uns les autres. Jusqu'à présent, le Liban très épargné. Pierre-Jean-Louis Arge,
Liban a été le premier, hélas, pour les Libanais à connaître ce que les autres pays connaissent aujourd'hui, c'est-à-dire une guerre civile opposant des communautés et au sein des communautés différentes factions. Il faut rappeler que l'État libanais a été créé du fait d'une volonté française de créer un État avec une soi-disant majorité chrétienne au Moyen-Orient. Bon, c'était une majorité fictive, mais ça a entraîné un système politique qu'on a appelé le confessionnalisme politique, qui enferme littéralement les gens dans une appartenance communautaire desquelles il est impossible d'échapper. Par exemple, il n'y a pas de mariage civil au Liban, malgré les manifestations au nom de revendications de la société civile pour la possibilité qu'auraient les Libanais de se marier entre membres de différentes confessions. Donc, il n'y a pas véritablement d'État libanais. Il y a plutôt des gouvernements qui sont un assemblage en fonction des rapports de force. Il y a eu d'abord une domination maronite, ensuite une domination sunnite. Aujourd'hui, c'est une domination chiite avec le Hezbollah. Mais le Liban, évidemment, est sur la corde raide puisqu'on n'imagine pas que le conflit syrien, notamment, pourrait ne pas avoir de conséquences au Liban. J'en veux pour preuve le fait qu'il y a un processus de délibanisation d'un certain nombre de communautés, comme c'est le cas notamment des salafistes de Tripoli et de Saïda, qui vont affronter leurs compatriotes du Hezbollah sur le terrain de guerre syrien.
Le Liban qui n'a pas de président depuis plusieurs mois. Pour aller au-delà et essayer de trouver finalement des vecteurs communs entre toutes les situations que nous avons évoquées depuis le début de cette émission, finalement dans chacun des pays où des segments entiers de la population ont été isolés, je pense à la Libye, en tournant vers vous, Virginie Colombier, c'est un retour par les armes, ce qui explique aussi le développement de l'État islamique en Irak, en Syrie, aujourd'hui en Libye. Les phénomènes électoraux sont également une catastrophe dans des pays qui n'ont pas pris le temps d'une certaine réconciliation, d'un dialogue entre adversaires. Voilà, je pense que ce sont des éléments sur lesquels j'aimerais que vous apportiez un éclairage, Virginie Colombier.
Je pense que c'est un des points centraux. On le voit en Libye, mais on le voit aussi, on l'a vu précédemment dans un pays comme l'Irak. Ce qu'on évoquait tout à l'heure sur cette peur des communautés et sur cette difficulté à trouver les bases d'un compromis et d'un consensus sur comment est-ce qu'on reconstruit le pouvoir est quelque chose de fondamental. Et ça a commencé avant même, dans le cas libyen par exemple, de parler de la question des gens qui ont été exclus après 2011, des gens qui ont été considérés comme les vaincus de la révolution et qui, de 2011 jusqu'à aujourd'hui, restent en dehors complètement du processus de reconstruction politique. Mais au-delà de ça, il y a ce problème beaucoup plus fondamental, même entre les vainqueurs de la révolution et des gens qui ont été les principaux porte-parole de la révolte de 2011, on a eu très rapidement ce problème d'incapacité à se mettre d'accord sur un projet commun, cette crise de confiance entre les deux, et donc des processus électoraux qui ont été lancés assez rapidement, à la fois soutenus de l'extérieur, mais aussi par la volonté même des élites politiques locales, mais qui ont été lancés sans qu'un processus de dialogue et de réconciliation ait été initié. Et on a exactement le même type de processus, je pense, dans le cas irakien, avec s'ajoutant en plus, comme vous le disiez, cette question des communautés qui ont été marginalisées, la communauté sunnite irakienne, la communauté sunnite en Syrie, et de la même manière aujourd'hui, tous ceux qui sont considérés à tort ou à raison comme pro-Kadhafi.
Pierre-Jean-Louis Arge.
Je pense que on a tout à fait la même situation en Libye et en Irak, dans la mesure où on voit que dans les deux pays, les élections ne sont pas la panacée et que s'il n'y a pas de cadre institutionnel et identitaire dans lequel la société puisse se reconnaître, les élections ont pour conséquence d'aggraver, au contraire, sur une base identitaire, les divisions. Par exemple, en Irak, j'en veux pour preuve le fait qu'il y avait des partis politiques avant 2003 et maintenant, il n'y a plus aucun parti politique. En Irak, il y a des partis communautaires et les Américains ont organisé les élections en faisant semblant de confondre la majorité démocratique, donc sur une base citoyenne, avec la majorité démographique. Et ce qui n'est évidemment pas la même chose parce que là, quand vous êtes chiite, vous votez pour des partis chiites. Quand vous êtes kurde, vous votez pour des partis kurdes. Donc les élections en Irak comme en Libye, en l'absence d'un cadre commun, étatique et institutionnel, ont abouti à l'éclatement du pays avec l'émergence de communautés exclues, souvent issues des bastions de l'ancien régime et qui font aujourd'hui le lit de l'État islamique.
Une exacerbation des rivalités, Jean-Paul Chagnolot.
Oui, je crois que les élections en soi, c'est un peu une illusion. Pour les raisons qui viennent d'être dites. Je crois que si vous discutez avec des Libanais des élections et de la démocratie, eh bien, ils vont tout de suite réagir en disant, oui, mais attention, moi, je suis maronite, je serai systématiquement minoritaire. Donc, s'il n'y a pas des institutions, mais aussi un ciment national minimal qui font que chacun se retrouve dans les institutions et y croit en ces institutions, et il n'a aucun intérêt à participer à des élections, sachant qu'il peut les perdre à coup sûr, enfin, structurellement. Et donc, on est dans une situation où, tant qu'on a ces clivages communautaire, les élections sont presque un danger, alors qu'elles sont nécessaires. Il y a tout à fait une dialectique là-dessus. Et c'est pas le propre Moyen-Orient. Regardons ce qui se passe dans d'autres régions, par exemple la Bosnie. La Bosnie est complètement bloquée depuis des années parce qu'on est justement dans ces errements communautaires qui bloquent toute possibilité. Et puis, dans les pays où il n'y a pas de clivage communautaire, on a d'autres types de clivages qui sont très préoccupants. Et c'est évidemment la question de l'islam politique. Moi, je prendrais deux exemples. L'Égypte. On a pu penser qu'il y avait un processus électoral qui fonctionnait. Là, on n'a pas la segmentation communautaire qu'on a en Irak ou ailleurs. Il y a les Coptes, mais enfin, ils sont profondément égyptiens, chacun le sait. Donc, on est vraiment dans une situation tout à fait différente, c'est l'internation. Et là, pourtant, il y a un clivage violent. On a vu comment ça s'est passé et comment beaucoup d'Égyptiens se sont appuyés sur l'armée, où l'armée a instrumentalisé une partie de la population pour chasser les islamistes qui avaient pourtant gagné les élections. Et puis, deuxième exemple, parce qu'on n'en a pas parlé, et puis je tenais à l'évoquer, c'est la question palestinienne. Il y a eu des élections, alors sous occupation, en janvier 2006, et à la surprise générale, alors que les Européens, les Américains, tout le monde voulait ces élections, c'est le Hamas qui a gagné les élections il y a 10 ans maintenant, et nos démocrates que sont les Européens notamment, qui voulaient ces élections, eh bien ensuite ont récusé les résultats parce que c'était les islamistes, ce qui fait que au lieu d'être un progrès dans une institutionnalisation de la communauté palestinienne face aux Israéliens, à la puissance occupante, ça a été un désastre dont les Européens portent une large part. Donc on est vraiment dans ces situations où l'élection apparaît comme une sorte de potion magique qui se retourne très souvent, alors qu'elles sont nécessaires quelque part, mais il faut d'abord que les conditions les permettent.
Donc un certain dialogue, une certaine, non pas tentative de réconciliation, mais qu'au moins la parole trouve sa place. Tous ces dysfonctionnements que vous évoquez depuis le début, l'illégitimité des gouvernements que vous mentionniez, le califat prôné par Daesh, est-ce qu'il a vocation finalement à obtenir l'adhésion de plus en plus de populations et à grandir et à s'ancrer, Pierre-Jean Luzard?
La grande question est de savoir si les États arabes en perdition vont continuer leur agonie longtemps ou s'ils vont s'effondrer rapidement. Et il est vrai qu'il y a un consensus régional et international pour poursuivre l'agonie d'États qui, à mon avis, sont morts, comme l'État irakien, dans la mesure où, effectivement, là, nous sommes face à un tabou, hein, l'intangibilité des États et des frontières, et donc un tabou, et c'est tant mieux pour la diplomatie et la communauté internationale. Mais est-ce que, dans le cas précis, il ne serait pas préférable d'anticiper l'effondrement d'institutions qui sont responsables du chaos, parce que effectivement l'État islamique prospère là où les États s'effondrent, et plus longtemps dure le processus de délitement des États, et plus l'État islamique va se renforcer. Et on le voit aujourd'hui en Irak, ce qui n'était au début qu'une simple labellisation pour d'anciens officiers bassistes qui n'étaient pas spécialement salafiste, devient aujourd'hui une adhésion, dans la mesure où les identités sont quand même très fluctuantes au Moyen-Orient, et le processus de délibanisation auquel je faisais allusion, on le retrouve aussi en Irak, où beaucoup de sunnites irakiens, du fait de leur refus d'être une simple minorité marginalisée dans un pays aux frontières de l'Irak, regardent aujourd'hui vers leurs frères en religion et en arabité du côté de la Syrie, et donc accorde un crédit qu'il n'accordait pas précédemment au discours transfrontalier, transnational de l'État islamique.
Virginie Colombier, l'État islamique en Libye.
C'est pour ça qu'on revient à la question de la légitimité des institutions. Et la légitimité des institutions, elle est considérée par les populations qui le vivent, justement dans le degré d'inclusion ou non de ces populations. Et moins le degré d'inclusion est grand, et plus on se retrouve avec des communautés, des groupes qui sont marginalisés, plus ce risque que les communautés marginalisées cherchent d'autres canaux pour se positionner et pour exister sur le champ politique, mais aussi sur le champ social, est grand. Et dans le cas de la Libye, on est exactement face à cette situation-là, où on voit par exemple que ce qui est devenu aujourd'hui un des fiefs de l'État islamique en Libye, la ville de Sirte, était le bastion, un des bastions de Kadhafi et de l'ancien régime, et où on a certes aujourd'hui un nombre croissant de combattants étrangers qui contrôlent la ville et qui assurent leur emprise, mais aussi beaucoup de personnes et de groupes issus des communautés locales qui sont là et qui acceptent de collaborer avec l'État islamique simplement parce que pour eux, c'est une manière de réintégrer un statut, un rôle et également des ressources. C'est pour cette question aussi que la question des ressources et de la capacité de l'État islamique à s'accaparer des ressources et à les redistribuer est fondamentale. Dans le cas libyen, c'est un peu différent jusqu'à présent parce que la stratégie de l'État islamique a plutôt été de s'attaquer à des installations énergétiques par exemple et de les détruire plutôt que d'essayer d'en prendre le contrôle pour tout un tas de raisons. On n'a pas le temps d'entrer. En Irak et en Syrie, c'est un peu différent. Et cette question de la capacité à s'accaparer et à gérer des ressources, je pense, est également fondamentale. Parce que si la capacité redistributive de ces institutions, entre guillemets, de l'État islamique diminue, je ne sais pas dans quelle mesure ils peuvent poursuivre leur expansion ou même maintenir leur emprise sur les populations locales.
Jean-Paul Sagnolo.
Oui, juste évoquer ces questions assez fondamentales, ça montre aussi la grave insuffisance des postures qu'on a en France ou ailleurs, qui sont très martiales quand on évoque Daesh, et qui sont stériles quand j'entends, pour ne pas le citer, notre Premier ministre qui dit que l'état d'urgence va durer tant que Daesh ne sera pas éradiqué. C'est un contresens politique grave, parce que ça veut rien dire en fait. La réalité, c'est que bombarder Daesh ne suffira jamais. Il faut des formules politiques, et c'est infiniment plus complexe pour la raison qu'on a dite. Il s'est engouffré dans le vide, donc il faut d'abord structurer ce vide, le restructurer, le repenser. Et à ce moment-là, peut-être qu'on pourra vraiment combattre Daesh dans ses racines. Sinon, ce sont des mots graves, graves, parce que on fait semblant de croire, et en fait, on alimente les tragédies que vivent ces populations. C'est ma première remarque. Ma seconde remarque, c'est sur les frontières. Je crois effectivement que on considère ça comme un tabou, l'intégrité territoriale. Mais c'est pas une fin en soi. Souvenons-nous en Europe ce qui s'est passé au lendemain de la chute du mur. L'Union soviétique a volé en éclats et a donné naissance à de nombreux États, à commencer par les Pays-Baltes. Et les Pays-Baltes ont été les premiers à sortir et à recouvrer leur indépendance. Moi, je me souviens d'avoir été dans les Pays-Baltes à l'époque de l'Union soviétique. Ils pensaient que jamais ils ne recouvreraient leur indépendance. Et la Yougoslavie, un deuxième exemple, elle a implosé. Bon, ben, finalement, il vaut mieux avoir la Croatie et la Serbie, etc., plutôt que d'avoir une Yougoslavie qui ne tenait pas. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais enfin, voilà, donc il faut repenser aussi avec beaucoup d'audace la réalité en parlant les choses là où elles sont. Et aujourd'hui, on est un peu dans l'aveuglement et c'est pour ça que les choses vont continuer à durer, d'autant plus que sur place, l'implication des acteurs extérieurs est très différente entre la Russie qui est vraiment présente sur le plan militaire et ô combien, et puis les Américains qui se retirent, les Européens qui réfléchissent à ce qu'ils vont pas faire. Vraiment, on est dans une situation difficile.
Alors pour terminer cette émission, vous êtes les uns et les autres plutôt optimistes ou pessimistes, Pierre-Jean Luisard ?
Je dirais que j'aimerais bien être optimiste, mais je pense que à court et à moyen terme, le scénario le plus probable est la continuation du chaos et l'absence, on l'a dit, de solutions politiques proposées par une communauté internationale qui a des intérêts divergents et qui ne s'accorde en fait que sur un statu quo qui est peut-être la pire des choses aujourd'hui pour les populations de la région.
Alors qu'il y aurait probablement un logiciel à changer, Virginie Colombier.
Un logiciel à changer et aussi peut-être regarder aussi ce qui se passe plus concrètement au niveau local. Parce qu'on fait comme si les communautés ou les populations locales étaient totalement passives ou inactives face à toutes ces situations. Et en fait, non. Dans le cas libyen, et au cours de toute l'année écoulée, j'ai eu l'occasion de le voir très très directement, il y a beaucoup de personnes influentes au niveau local qui s'engagent, qui mettent en place des processus justement pour essayer de construire un nouvel ordre, de réconcilier, et qui sont totalement laissés, qui ne sont pas pris en considération du tout.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Virginie Colombier, chercheure à l'Institut universitaire européen de Florence. Pierre-Jean Luisard, directeur de recherche au CNRS et spécialiste du Moyen-Orient. Et Jean-Paul Chagnulot, professeur des universités, directeur de l'IREMO, co-auteur avec Pierre Blanc de l'Atlas du Moyen-Orient qui vient de paraître aux éditions Autrement. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site internet de RFI, www.rfi.fr. Émission signée Marie-France Chatin, Eleonora Farad et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique sera consacrée au Mexique.